Quelle est la source du mal dans notre monde? Est-ce simplement la nature de l'homme qui fait que nous sommes mauvais, ou au moins en partie un mélange de bien et de mal? Ou existe-t-il une force invisible derrière la nature humaine? Je pense que nous connaissons la réponse à cette question, nous respectons le jour des expiations et nous le comprenons. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens dans le monde. Ils pensent que le mal est juste une sorte de chose qui existe, peut-être une force quelconque, mais ce n'est pas un être littéral qui est derrière tout cela. Mais selon la Bible, il existe un être maléfique réel, invisible et puissant, qui influence notre monde de manière très négative. Qui est-il et comment est-il apparu? Dans le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que généralement nous comprenons. Ce n'est pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais nous avons des jeunes qui grandissent, nous avons des gens qui sont nouveaux dans l'Église, et bien sûr, ce n'est pas seulement ici, mais dans le monde entier. Ainsi, la question que je pose est, Dieu a-t-il créé le diable? Et aussi, si j'ai du temps à la fin, je parlerai de la façon dont il divise notre monde et je donnerai un avertissement à chacun d'entre nous. La question « Dieu a-t-il créé le diable ?» revient de temps en temps. Elle m'a été posée plusieurs fois au cours des derniers mois. Elle revient assez souvent que M. Herbert Armstrong a écrit une brochure sur ce sujet. « Dieu a-t-il créé le diable ?» Nous n'avons pas de brochure sur le sujet dans l'Église du Dieu vivant. Et en parcourant les lettres de la série L, il se trouve que je n'en ai pas vu sur le sujet. Il y en a peut-être une que j'ai manquée, mais nous n'avons pas beaucoup parlé de ce sujet. Nous avons une brochure intitulée « Évolution ou création, la dimension manquante » qui couvre une partie de l'histoire de cette terre et implique le diable de cette manière. Mais permettez-moi d'abord d'aborder la question de savoir si le mal est une condition générale de l'humanité ou si le mal est le résultat de l'influence d'un être spirituel réel sur celle-ci. Nous pourrions nous reporter à Job, chapitre 1, Job 1, et encore une fois, je ne pense pas que je vais vous donner pour l'essentiel quelque chose de tout à fait nouveau, mais je m'oriente vers quelque chose ici. Dans Job, chapitre 1, au verset 6 et 7, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Les fils de Dieu ou les anges de Dieu se sont donc présentés devant Dieu, et Satan est venu parmi eux. Nous pourrions nous lancer dans toutes sortes de spéculations sur les raisons pour lesquelles Satan a eu accès ou a pu venir là. Dieu le connaissait très bien. Tout comme parfois dans cette sphère humaine qui est la nôtre, nous rencontrons des individus qui n'ont pas les mêmes convictions que nous sur certaines choses. Dieu connaissait très bien cet être. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan lui répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Il ne s'agit donc pas d'une force nébuleuse, mais d'un individu bien réel. Certains pourraient essayer d'expliquer cela en disant « ce n'est qu'une métaphore », mais ce n'est pas l'impression que l'on a en lisant le premier chapitre de Job. Ce n'est pas non plus l'impression que l'on a quand on passe au Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Encore une fois, très familier à chacun d'entre nous, il s'agit de la tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. En parlant d'un individu bien précis, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Le diable a donc cité les Écritures. L'utilisation de l'Écriture est l'un de ses outils. la mauvaise utilisation des Écritures. Et voici un exemple où il a cité une Écriture spécifique qui, à première vue, semblerait convenir. Mais Jésus a reconnu qu'il y avait une autre Écriture qui la mettait en contexte. Satan poursuivit en disant, verset 6, « Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Nous lisons la tentation qui a eu lieu, et à la fin, Jésus a dit, « Retire-toi d'ici. » Il n'est pas tombé dans aucun de ses pièges, et il lui a dit de partir. Vous savez, Satan tente toujours l'humanité. Et si nous pensons qu'il ne nous tentera pas avec les Écritures, ou avec des émotions d'une manière ou d'une autre, nous sommes très naïfs. Il essaie de détruire l'humanité en général, mais il essaie aussi de nous détruire, vous et moi. Il nous déteste. Il déteste tout ce que nous représentons parce que nous suivons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que nous obéissons à notre Père. Alors, d'où vient-il? Dieu a-t-il créé Satan ou existe-t-il une autre explication? Beaucoup de gens pensent que l'histoire biblique commence dans Genèse chapitre 1. Mais en fait, elle commence dans le Nouveau Testament, dans Jean 1. C'est un passage très familier pour chacun d'entre nous, encore une fois, Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Verset 1 de Jean 1. Au commencement, c'est le vrai commencement. Non pas dans Genèse 1, mais ici dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous pouvons également lire dans Colossiens, chapitre 1, il y a un certain nombre d'autres Écritures que nous pourrions lire qui nous montrent que celui qui était la parole est devenu Jésus-Christ. Est celui que Dieu a utilisé pour tout créer. Remarquez-le ici dans Colossiens 1, versets 15 à 18. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il s'agit donc du Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ainsi, très clairement, c'est celui qui est devenu Jésus-Christ qui a créé tout ce qui existe, tout l'univers. Dieu l'a fait à travers lui, le Père l'a fait à travers lui, mais c'est lui, le porte-parole, qui a dit que la lumière soit, etc. Et parmi ces choses qui ont été créées, il y avait des dominations, des principautés et des autorités. Et cela inclurait certainement le règne angélique. Au commencement, nous avons donc Dieu et nous avons la parole ou le porte-parole. Ce n'est qu'après cela que nous en venons au chapitre 38 de Job. Job 38, et que nous examinons l'ordre de la création. Nous commençons avec Dieu le Père et Jésus-Christ, et Dieu a utilisé le Christ pour créer toutes choses. Ensuite, dans Job 38, à partir du verset 4, c'est là que Dieu parle à Job. Job 38, verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Job 38, verset 5. « Qui en a fixé les dimensions? » Il parle de la terre ici. Le sais-tu? « Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » Sur quoi ces bases sont-elles appuyées, ou qui en a posé la pierre angulaire? Remarquez le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, il est question de la création de la terre. Et Job met l'accent ici sur cette planète que nous habitons. Les fils de Dieu, que nous reconnaissons ici comme des anges, poussèrent des cris de joie. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ils se réjouirent de la création de cette terre, parce que c'est le contexte mentionné ici au verset 4, où il est dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Cette planète a donc quelque chose de spécial, et il y a une raison pour laquelle les fils de Dieu poussèrent des cris de joie, parce que, comme nous l'apprenons ailleurs, c'est là qu'ils allaient accomplir un certain travail. Nous ne savons pas exactement ce que c'était, mais les anges devaient être sur cette terre et gouverner, ou du moins un certain nombre d'entre eux. Ils furent créés avant la terre, parce qu'ils ont poussé des cris de joie lorsqu'ils l'ont vu apparaître. Nous en arrivons maintenant au récit de la création, où les gens commencent souvent par le premier chapitre de la Genèse. De nombreuses personnes sincères croient que le récit de la création dans Genèse 1, ainsi que la chronologie de la Bible, indique que la terre et l'univers n'ont que 6000 ans. Bien sûr, les scientifiques ne sont pas d'accord et certains disent, si vous croyez la Bible, l'âge de la terre n'est que de 6000 ans. Je me souviens d'un ministre que nous avions, après avoir quitté l'Église universelle, c'était dans l'Église mondiale de Dieu, et cet individu estimait que, si l'on ne croyait pas que la Terre a 6000 ans, on ne croyait pas la Bible. C'est une chose curieuse que j'ai remarquée au fil des ans. Souvent, lorsque les gens s'accrochent à une chose, ils s'accrochent à beaucoup d'autres choses. Il y avait d'autres problèmes aussi avec cet homme. Finalement, et cela n'a pas été très long, l'individu quittait l'Église et la religion tout court, et il est devenu un non-croyant en la Bible. Au bout d'un an, deux ou trois, il est mort, et c'est tout. Mais lorsque nous examinons le récit ici, lorsque nous examinons les mots de l'Écriture, nous constatons que la Bible ne limite pas la terre et l'univers à 6000 ans. Reportons-nous à Exode chapitre 20. Car c'est là que cette personne, et d'autres, se réfèrent pour affirmer que la terre n'a que 6000 ans d'âge. Et au verset 9, lorsqu'il parle du jour du sabbat, Exode 20, verset 9, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Il est donc écrit, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Les gens lisent cela et disent, eh bien, il a tout fait, tout l'univers, en 6 jours. Mais revenons au chapitre 1 de la Genèse. Et regardons cela de plus près, dans Genèse 1. Il est intéressant de constater que Satan est très astucieux et qu'il sépare les gens de différentes manières et qu'il fait passer ceux qui croient en la Bible pour des idiots aux yeux des autres. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que lorsque vous commencez à calculer le temps qu'il faut à la lumière pour voyager jusqu'à la Terre, et les différentes désintégrations des isotopes radioactifs, et ainsi de suite, que la Terre est plus vieille que 6000 ans. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens dans l'Église de Dieu aujourd'hui qui croient simplement qu'elle a 6000 ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons des sermons de temps en temps sur ce sujet. Mais il est écrit au verset 1 de Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, il créa. Remarquez qu'il y a deux mots différents qui sont utilisés ici. L'un ici dans Genèse 1 est le mot « créa ». Et dans Exode 20, verset 11, il dit « Car le Seigneur Dieu a fait les cieux et la terre. » Ce sont des mots français, mais même dans la langue française, il y a des différences. Mais surtout dans l'hébreu original, ces mots ont des significations très différentes. L'un est « créé » et l'autre est « fait ». L'un est « bara » et l'autre est « assa » ou « assa ». Et il s'agit d'une différence subtile, mais significative. Et je ne doute pas que, même dans la traduction de la Bible, parce qu'elle a été traduite par des hommes, nous savons qu'ils y ont mis leurs propres idées dans certaines choses. Nous avons suffisamment de traductions, nous avons suffisamment d'érudits pour détenir la vérité. Mais ici, dans ce cas particulier, nous ne lisons pas la langue originale. Mais même dans la langue française, on utilise deux mots différents, « créer » et « faire ». Le Theological Workbook de l'Ancien Testament dit ceci à propos du mot « créer » qui est « bara » dans l'original, dans l'hébreu. Elle dit ceci, la racine « bara » a pour signification fondamentale « créer ». Elle diffère de « assa » ou « ayassar » ou « assa » signifiant « façonner ». En ce sens que ce dernier « assa » met principalement l'accent sur le façonnage d'un objet, tandis que « bara » met l'accent sur l'initiation de l'objet. L'un signifie plutôt « faire de l'argile » et l'autre « façonner l'argile ». C'est là toute la différence, pourrait-on dire. Puisque l'accent principal du mot est mis sur la nouveauté de l'objet créé, le mot « bara » ou encore « créé » se prête bien au concept de « création ex nihilo », c'est-à-dire à partir de rien. Il y a une chanson, et je crois que c'est dans la Mélodie du bonheur, qui dit « Rien ne vient de rien, rien ne pourra jamais venir de rien ». Il est intéressant de constater que les scientifiques, qu'ils sachent ou non de quoi ils parlent, lorsqu'ils évoquent le Big Bang et que les gens s'inquiètent, le Big Bang n'est peut-être pas correct, mais vous savez, le Big Bang est vraiment quelque chose de notre côté, parce qu'il dit qu'il y a eu un commencement. Bien sûr, les scientifiques parlent d'expansion cosmique. Ils ne parlent pas de Big Bang. C'est plutôt un terme que les non-scientifiques utilisent pour l'expansion cosmique. En gros, ils disent qu'il y a quelque chose de plus petit que tout ce que l'on peut voir et que tout ce qui se trouve dans l'univers en est issu. Je ne le sais pas, et cela ne m'intéresse pas vraiment dans un sens, à part le fait qu'ils disent que nous ne sommes pas aussi solides que nous le pensons. Et ils le savent, car les atomes sont principalement constitués d'espace. Et ils ne sont pas de petits objets solides qui volent autour l'un de l'autre. Ils sont plutôt un petit nuage ou quelque chose comme cela. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que cela semble assez solide, mais c'est surtout de l'espace. On ne peut pas le voir. Ce n'est pas aussi solide qu'on le pense. En fait, vous pensez que vous êtes assis sur votre siège, mais non. Vous êtes en train de planer. C'est juste que vous vous poussez vers le bas et qu'il pousse vers le haut, ce qui vous donne l'impression d'être assis dedans. C'est ce que les scientifiques nous disent, d'accord? Je pense qu'ils savent probablement de quoi ils parlent. Il y a des gens brillants. Mais si vous ne voulez pas l'accepter, pas de problème. Mais ce que nous trouvons ici, c'est qu'il y a eu un commencement lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Et sur ce point, la science est vraiment d'accord. Du moins, de nombreux scientifiques, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas d'accord, mais de nombreux scientifiques sont d'accord pour dire que oui, il y a un temps où la matière n'existait pas et qu'elle est apparue. Quand on y pense, c'est assez remarquable. Il fut un temps où rien de ce que nous voyons sur cette terre n'existait, où l'univers tout entier n'existait pas. Mais il est apparu. Il se prête donc bien au concept de création ex nihilo, en d'autres termes à partir de rien. Bien que ce concept ne soit pas nécessairement inhérent au sens du mot, mais il s'y prête. En ce qui concerne le verbe « assa », qui signifie « faire », Il est dit que le verbe « assa » a la connotation de base de « faire » ou de « fabriquer ». Lorsqu'il est utilisé dans le sens de « faire », l'accent est mis sur le façonnage de l'objet. L'objet est déjà là, mais nous sommes en train de le façonner. Le mot « bara », c'est-à-dire « créer », porte l'idée de l'initiation de l'objet concerné. Le mot « assa », « faire », a une portée beaucoup plus large, connotant principalement le façonnage de l'objet. Cela vient du Theological Workbook de l'Ancien Testament, qui est une source très érudite. Il est beaucoup plus érudit que, disons, la Strong Concordance, même si vous en avez besoin. Vous avez besoin de la concordance Strong's, à moins que vous ne parliez l'hébreu, parce que vous pouvez aller et venir avec les numéros Strong's, et les rechercher. Mais cela devient fastidieux d'essayer de trouver quelque chose de cette façon, mais c'est aussi une source de formation excellente. Cela met en évidence la différence, tout comme faire et créer ont un contexte légèrement différent dans notre monde, dans la langue française, ainsi assa et bara ont des significations différentes. L'un est de créer, initier, le début de quelque chose que seul Dieu peut faire, et l'autre est le fait de façonner, de modeler ou de former. Maintenant, regardons de plus près Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là encore, il y a des différences de sens entre les mots qui sont clairement énoncés en français. Remarquez qu'il est dit « la terre était ». Et le mot « était », je ne vais pas entrer dans l'hébreu, mais simplement dire que l'hébreu original est souvent traduit dans les Écritures non par « était », mais par « devint ». Par exemple, nous pouvons aller dans Genèse 19, Genèse 19 au verset 26, et c'est le moment où Lot, Madame Lot, et leur fille s'enfuyaient. Genèse 19, verset 26. Verset 26 de Genèse 19. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. C'est le même mot qui est traduit par « était » dans Genèse 1, verset 2. Il y a de nombreux exemples de cela. Reportons-nous à la page suivante, Genèse 20, et au verset 12. Genèse 20, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Parlant ici d'Abraham. Elle est devenue ma femme. Nous pourrions dire aussi, elle était ma femme. Mais il y a une légère différence de sens. Évidemment, vous pourriez dire que la femme de Lot était une statue de sel, mais elle devint. Cela montre le processus de devenir. Revenons donc à Genèse 1, verset 2, et comprenons ce qu'il pourrait être dit. La terre devint informe et vide. On pourrait dire « était ». Au lieu de traduire « était », on pourrait traduire « devint ». Mais que signifient les mots « informe » et « vide » ? L'expression utilisée ici est « tohu » et « bohu » en hébreu. « Informe » pour « tohu » et « vide » pour « bohu ». Ces mots ne sont utilisés ensemble que deux autres fois dans les Écritures. Dans le chapitre 34 d'Ésaïe, nous voyons un exemple de cela et de la manière dont cette expression est utilisée. C'est l'une des deux autres fois, donc Ésaïe 34, verset 1. Je vais sauter quelques versets ici, mais pour donner juste le sens de ce qui se passe plutôt que de lire chaque mot. Mais vous pouvez lire les versets 1 à 11. Ésaïe 34, verset 1. « Approchez, nations, pour entendre. Verset 2, « Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. » Pourquoi? Verset 8, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. » Verset 10, « À tout jamais personne n'y passera. » Et puis le verset 11, le verset clé nous dit, « Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. » On y étendra le cordeau de la désolation, c'est Tohu, et le niveau de la destruction, c'est Bohu. Quand vous regardez ce passage, quand nous lisons Ésaïe 34 et les 11 premiers versets, nous constatons que c'est le jugement de Dieu sur la nation, ou les nations au pluriel, à cause du péché. Et comment il va les laisser dans la désolation et la destruction? L'expression « tohu » et « bohu » est utilisée dans un sens très négatif. Reportons-nous à Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Et nous regarderons les versets 19 à 23. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Un temps de destruction. Parce qu'il est dit au verset 20, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé, mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Il s'agit donc à nouveau de péché ou d'une situation de péché. Verset 23, « Je regardais la terre et voici, elle est informe et vide. » Tohu et bohu. Nous avons donc ces deux exemples où Tohu et Bohu décrivent clairement un temps de confusion, un temps de destruction, un temps de désolation en raison du péché. La seule autre fois où ce terme est utilisé, c'est dans Genèse chapitre 1. Il semblerait qu'il y a là quelque chose qui soit décrit, un temps de Tohu et Bohu. Or, le mot « tohu », informe, est utilisé 16 fois tout seul. Le Theological Workbook de l'Ancien Testament dit ceci de « tohu », la confusion, un espace vide. Dans la plupart, sinon la totalité de ces 16 cas, Tohu a un sens négatif ou péjoratif. Encore une fois, quand vous regardez ces 16 cas, ces 16 versets, et certains sont un peu plus évidents que d'autres, mais quand vous les regardez dans leur contexte, vous trouvez qu'ils sont dans un contexte négatif, tout comme Tohu et Bohu dans Ésaïe et Jérémie sont utilisés dans un contexte très négatif. Il est donc logique de comprendre que lorsque nous revenons à Genèse chapitre 1, et qu'il est dit que la terre était informe et vide, ou que la terre devint tohu et bohu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, cela indique qu'une sorte de destruction a dû s'abattre sur la terre. Ce n'est pas que la terre soit simplement incomplète. Ce n'est pas comme une pomme qui n'est pas assez mûre. Cela indique qu'il y a une confusion. Il y a une terre qui est désolée, qui est en désolation, qui se trouve là. Et pourtant, dans Ésaïe 45, il est dit que ce n'est pas ainsi que Dieu a créé la terre. Oui, évidemment, quand Dieu a créé la terre, il y a eu un processus qui s'est déroulé. Mais il n'a pas créé au départ comme une terre totalement en désolation à cause du péché. Il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Reportons-nous à Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite, et qui l'a affermie, qui l'a créée, pour qu'elle ne soit pas déserte, tohu, qui ne l'a pas créée dans la confusion, dans la destruction. » Comme il nous est dit dans le Theological Workbook de l'Ancien Testament, il ne l'a pas créé dans un état de confusion. Qu'il l'a créé, qu'il l'a formé pour qu'elle soit habitée. Il ne l'a pas créé pour qu'elle soit déserte, mais il l'a créé de manière pour qu'elle soit habitée. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, nous lisons un événement qui devient très important. Dans Luc, chapitre 10, au verset 18. Je commencerai au verset 17 ici, Luc 10, verset 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils étaient donc enthousiasmés par le fait qu'ils pouvaient chasser les démons. Ces 70 qu'il avait envoyés deux par deux, 35 paires d'hommes. Verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il parle de scorpions et de serpents, il s'agit en fait d'esprits démoniaques ici. Il ne parle pas des créatures de cette terre, mais il dit, verset 18, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cela nous amène à nous reporter à Ésaïe 14, que nous lisons presque chaque année pendant le jour des expiations, Ésaïe 14, verset 12. Ce chapitre nous est très familier, c'est un terrain connu. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel. » Te voilà tombé du ciel. Et cela rejoint ce que Jésus a dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ensuite, il donne un nom à cet être. Il dit « Astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, ou l'annonciateur de la lumière. » Il dit « Astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. En d'autres termes, tu as été rejeté à terre. Te voilà le vainqueur des nations. » Verset 13, tu disais en ton cœur, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il y a beaucoup de choses écrites ici. Vous savez, en étudiant en Ambassador College, je n'ai jamais remarqué cela, mais M. Armstrong a parlé du trône de Satan sur cette terre. Et je n'ai pas vraiment réalisé d'où il tenait cela. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est probablement logique. Mais ici, il est très clair que Satan avait un trône. J'élèverai mon trône. Il avait une position d'autorité, au-dessus des étoiles de Dieu, ou des anges de Dieu. Il voulait exalter son trône au-dessus de tous les anges, pas seulement ceux qui étaient sur cette terre, au-dessus des étoiles de Dieu, mais au-dessus de tous les anges. C'est ce qu'il voulait. Verset 13, « Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » En d'autres termes, là où Dieu est, c'est là que je serai. Verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues. » Cela montre donc que son trône était ici, sur cette terre, car les nuages sont pour ainsi dire sur cette terre. « Je serai semblable au Très-Haut, ou je serai le Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts ou la tombe dans les profondeurs de la fosse. » Dans les prophètes, nous trouvons souvent ceci. Il est parfois difficile de dire de qui ils parlent. Parce qu'il parle d'une chose, puis il passe à quelque chose de différent, en particulier dans les parties poétiques. Cela peut être un peu obscur, mais il est très clair ici qu'il s'agit de Lucifer. Mais ensuite, on revient à l'être humain qui dirige cette puissance babylonienne. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, versets 3 et 4, nous trouvons, nous voyons que Satan a attaqué et essayé de renverser Dieu, soit avec les anges qui étaient sur la terre, ou soit avec ceux qu'il a essayé de soudoyer au trône de Dieu, mais il a séduit un tiers des anges. Il s'agissait probablement de ceux qui étaient sous ses ordres sur cette terre, car les Écritures mentionnent trois chérubins, et deux chérubins couvraient le trône de Dieu. Nous y reviendrons dans un instant, mais regardons Apocalypse 12, verset 3. Verset 3, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'est un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue, verset 4, entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et si vous revenez au chapitre 1, vous verrez que les étoiles symbolisent les anges. Et c'est ce que nous voyons tout au long de l'Écriture. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Nous voyons donc que lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, il a pu séduire un tiers des anges. Quand on y pense, on se rend compte qu'il s'agit d'êtres spirituels que Dieu a créés par l'intermédiaire de Jésus-Christ et qui avaient sans doute des responsabilités. Mais Satan a réussi à tromper un tiers d'entre eux et à les faire pécher avec lui. C'est assez remarquable quand on y pense. Ce n'est pas un mince exploit. Reportons-nous à Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Bien souvent, nous lisons ce chapitre le jour des expiations. Débutons au verset 11. Il commence le chapitre en parlant du prince de Tyr. Mais à partir du verset 11, il commence à parler du roi de Tyr, ou du moins plus précisément, au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, verset 11, verset 12, « Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. C'est celui qui est derrière le prince de Tyr, comme nous le verrons ici. Nous ne le savons pas en lisant uniquement ce passage, mais lorsque nous lisons ce qui suit, il est très clair qu'il parle de la puissance invisible qui se cache derrière le chef physique de Tyr. Verset 12. « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » S'agissait-il du jardin d'Éden physique? Peut-être. Mais plus probablement du trône même de Dieu. Verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Nous comprenons qu'il avait de grandes capacités musicales. Préparé pour le jour où tu fus créé. Ce n'est pas quelqu'un qui est né comme le prince de Tyr, mais c'est quelqu'un qui a été créé. De plus, le verset 14 est très clair. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Lorsque nous regardons l'Arche de l'Alliance, nous constatons qu'il y avait deux chérubins, un à chaque extrémité, et qu'ils couvraient le trône de Dieu. Apparemment, ce chérubin se trouvait à un moment donné au trône de Dieu. C'était un chérubin qui le couvrait. Était-ce trois d'entre eux qui le couvraient? Peut-être un à l'arrière, ou fallut-il le remplacer plus tard? Mais voici un chérubin qui était au trône de Dieu depuis je ne sais combien de temps. Des millions d'années, nous ne le savons pas. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'ai établi, je t'avais placé. C'est Dieu qui l'a placé là. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu, ou le gouvernement de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à ce que le péché soit trouvé en lui. Il explique ensuite pourquoi il a péché. Verset 16, « Par la grandeur de ton commerce. » Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Tu as été rempli de violence. Il est devenu un être violent. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, du trône de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous savez, je parlais à ma femme l'autre jour. Les gens ont parfois toutes sortes de problèmes. Et je lui ai dit, « Je suis heureux que je ne suis pas trop beau. » Parce que cela crée son propre lot de problèmes. Je me souviens d'une fille au collège. Extérieurement, si vous ne la connaissiez pas, elle était très belle, mais une fois qu'on la connaissait, elle n'était pas aussi belle. Elle savait qu'elle était belle. Et cela lui est monté à la tête. Et cela n'a pas très bien fonctionné. Et d'après ce que j'ai entendu, cela n'a pas fonctionné très bien pour elle à long terme. Parfois, il est bon de ne pas être trop bon, de ne pas être trop intelligent, de ne pas être trop beau ou trop belle, de ne pas avoir cette personnalité scintillante que nous aimerions tous avoir, juste d'être ordinaire. Parfois, c'est une bonne chose. Verset 17, donc. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il avait donc une grande sagesse. Mais ce n'était pas une sagesse divine. C'était sa propre sagesse. C'était sa propre logique, sa propre façon de voir les choses. Voici comment je vois les choses. C'est ainsi qu'il est dit au verset 17, « Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » La suite nous ramène au prince de Tyr. Il y a juste une petite section ici qui parle clairement de ce chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est de là que vient cet être spirituel. Maintenant, regardons ce que cet ange déchu fait ici sur cette terre. Dans Jean, chapitre 12, il est étonnant que beaucoup de prétendus chrétiens ne comprennent pas cela. Je ne le comprenais certainement pas avant que Dieu ne m'appelle, et je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour commencer à comprendre ce concept. Parce que tout est là, c'est juste que souvent nous lisons quelque chose et nous ne le laissons pas vraiment s'imprégner, tout comme les disciples ont entendu le Christ parler de beaucoup de choses, mais ne l'ont pas compris. Reportons-nous à Jean 12 et au verset 31. Et voici les paroles de Jésus la nuit où il fut arrêté. Verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il s'agit donc clairement d'une référence à Satan. Il dit qu'il est le maître de ce monde et qu'il sera chassé. Ensuite, dans Jean 14, et au verset 30, Jésus dit, Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » C'est pourquoi on l'appelle le chef de ce monde. Je n'irai pas dans Apocalypse 12, verset 9, car je pense que nous sommes tous très familiers avec ce verset, mais vous pouvez le mettre dans vos notes et le chercher, Apocalypse 12, verset 9. Il parle de Satan, qui a séduit le monde entier. Il a séduit le monde entier. C'est assez impressionnant quand on y pense. Il a trompé tout le monde. Et malheureusement, il nous trompe parfois. Tout comme Pierre, lorsque le Christ lui a dit, « Arrière de moi, Satan! » Pierre disait, « Écoute, Seigneur, je ne vais pas les laisser te prendre. » Et il a dit, « Vous ne percevez pas les choses de Dieu. Arrière de moi, Satan! » Il s'est rendu compte que Satan influençait Pierre à ce moment-là. Et Jacques et Jean, il leur a dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous voulez faire descendre le feu du ciel pour détruire des gens juste parce qu'ils vous ont rejetés ou nous ont rejetés? » Il est facile pour nous de nous laisser entraîner. Si nous pensons que nous sommes au-dessus de cela, nous nous trompons nous-mêmes, parce que même les apôtres ont été influencés à un moment ou à un autre par Satan. Lorsque Pierre s'est retiré de la fraternisation avec les gentils, pensez-vous que c'était de la part de Dieu ou de l'autre esprit? Nous n'avons pas d'écrit disant, vous savez, Satan lui a fait cela. Il est certain qu'il n'agissait pas selon la voie divine. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Dans le processus de la perdition, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, voici donc le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, qui aveugle l'esprit des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous pourrions nous référer à un certain nombre d'autres Écritures, mais parlons des choses qui nous affectent. De nombreux membres se sont laissés entraîner par la politique de ce monde. Ici, aux États-Unis, nous avons connu toute une transition d'une administration à l'autre. Et statistiquement, l'administration précédente était considérée par la plupart des Américains comme étant sur la mauvaise voie. Aujourd'hui, notre administration actuelle, le président actuel, a des manières inhabituelles. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais beaucoup d'entre nous apprécient certaines de ces actions, comme la fermeture de la frontière, la déclaration qu'il n'y a que deux sexes et que les hommes doivent rester à l'écart des sports féminins et des toilettes des femmes. Je pense que nous apprécions tous cela. Nous aimons cela. Nous reconnaissons que le gouvernement fédéral est hors de contrôle sur le plan financier. Nous sommes en train de nous ruiner. Nous pourrions peut-être dire que nous sommes ruinés. Le service de la dette nous coûte 1 000 milliards de dollars par an. On pourrait dire que la façon dont l'administration s'y prend n'est pas bonne, mais chacun a sa propre opinion à ce sujet et c'est bien ainsi. La fermeture des frontières, afin que nous sachions qui entre dans le pays, bien sûr, je pense que nous sommes tous en faveur de cela. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés prendre par la politique, même des églises de Dieu qui disaient « sortez et votez » et qui encourageaient leurs membres, ou qui ne les décourageaient pas de voter cette dernière fois. Je ne sais pas dans quelle mesure cela se fait dans d'autres pays, mais c'est certainement le cas dans notre pays. Mais qui est derrière cela? Qui est derrière tout ça? Regardons Éphésiens. Vous connaissez bien ce passage, je l'ai lu de nombreuses fois, Éphésiens 2. Qui dirige le cours de ce monde? Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Quel est le cours de ce monde? Eh bien, c'est les divertissements, les affaires, l'éducation. Et oui, c'est aussi la politique et la gouvernance. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous savez, il joue de nous comme d'un instrument de musique. Il nous donne un dirigeant, puis un autre pour le contrecarrer, puis un autre pour le contrecarrer, et encore un autre. Le pendule ne fait qu'osciller d'un côté et de l'autre. Et comme l'a dit un jour quelqu'un à l'ambassadeur collège, la seule fois où nous nous trouvons au milieu de la route, c'est lorsque nous traversons d'un fossé à l'autre. C'est la seule fois où nous y sommes. Et pourtant, combien de temps faudra-t-il attendre avant d'apprendre qu'il n'y a pas de Messie? Oui, il est vrai que certains dirigeants sont meilleurs que d'autres. Mais vous savez quoi? Quel grand dirigeant avons-nous eu récemment? Certains pensent que M. Trump est le plus grand président que nous ayons eu dans les temps modernes. Il est un peu trop tôt pour faire ce lien. Je pense que beaucoup de gens sont satisfaits de certaines des mesures qu'il prend sur le plan intérieur. Mais le fait de bousculer nos alliés semble préparer la crise de la fin de cette ère. Et c'est ce que je ressens depuis un certain temps. Vraiment. L'accent est mis sur la Chine, sur le commerce et les frontières, etc. Discrètement, du moins pour la plupart des Américains, parce que nous ne prêtons pas attention aux nouvelles internationales, discrètement, l'Europe est en train de s'élever. Certes, le pays est actuellement en crise, mais les crises sont parfois ce qu'il faut pour mettre les choses en lumière. Nous sommes plusieurs ici à avoir vécu au Canada ou à y être nés. Et appeler le Canada le 51e État est l'approche la plus désastreuse que l'on puisse avoir à l'égard de cette nation. S'il y a bien quelque chose que les Canadiens ne veulent pas être, c'est d'être Américains. D'après ce que j'entends, la réaction des Canadiens est assez spectaculaire. Les Français et les Anglais s'unissent même pour lutter contre les États-Unis. Les produits qui viennent des États-Unis pourrissent dans les magasins. N'achetez rien d'Américain. Si vous vivez aux États-Unis, vendez vos maisons. C'est ce qui se passe. Ils vendent leurs maisons. Ils ne veulent rien avoir à faire avec les États-Unis. Ce n'est pas parce que vous avez fait quoi que ce soit, mais le visage de l'Amérique a changé. Et je peux vous dire avec certitude, pour avoir vécu là-bas, qu'ils ne veulent pas être considérés comme un 51e État. C'est la dernière chose qu'ils veulent que l'on pense d'eux. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que les deux pays vont beaucoup souffrir parce que nous sommes si liés l'un à l'autre, pour ainsi dire. Et nos deux pays vont malheureusement en souffrir. Faire la leçon aux Européens et s'ingérer dans leurs affaires intérieures, c'est favoriser la montée de la bête. En ce moment même, notre vice-président, je ne sais pas s'il est toujours là, mais la semaine dernière, il était là, à faire la leçon à l'Allemagne et aux pays qui s'y trouvent. Tout ce qu'il a dit n'est peut-être pas faux, mais c'est la façon dont on aborde les choses. Nous les encourageons donc à ne pas se contenter de dépenser les 2% prévus à l'origine dans le cadre de l'OTAN, mais à aller à 5%. Il s'agit peut-être d'un outil de négociation, peut-être s'agira-t-il de 3 ou 4%, de 2,5 ou 3%, c'est peut-être de la négociation, mais que faisons-nous là-bas? Le regretté Charles Krauthammer a fait une observation très astucieuse. Il a déclaré que l'OTAN avait été créée pour deux raisons, empêcher la Russie de s'agrandir et empêcher l'Allemagne de s'armer. Il a ajouté que la dernière fois que l'Allemagne est devenue militairement puissante, les deux dernières fois, cela n'a pas très bien fonctionné. Je pense qu'il a dû lire notre littérature. Ce que nous faisons, c'est encourager les Européens à devenir forts sur le plan militaire. C'est une chose que vous et moi savions depuis longtemps qu'ils devaient faire. Le retrait désastreux de l'Afghanistan, nos alliés l'ont constaté, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a provoqué un revirement soudain de l'approche militaire en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Et maintenant, nous avons une administration qui fait pression pour qu'ils se réarment encore plus. Prenons un peu de recul et voyons où nous en sommes, car je n'essaie pas de faire de la politique, mais j'essaie simplement d'examiner les faits tels qu'ils existent. Nous avons eu le retrait de l'Afghanistan. Il a stupéfié l'Europe et nos ennemis. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a choqué l'Europe. Elle l'a fait sortir de son monde de confort. Nous avons eu l'attaque terroriste du Hamas contre Israël qui a encore plus déstabilisé le monde. Et ce n'est pas encore fini. Il reste à voir comment les choses vont se passer ici. Mais l'Europe se rend compte qu'elle ne peut pas dépendre de la protection des États-Unis à l'avenir. Et c'est là l'essentiel. J'ai écrit ceci dans mes notes. L'Ukraine doit bénéficier de certaines mesures de sécurité spécifiques. Pourrait-il s'agir d'une combinaison de nations européennes en dehors de l'OTAN? En d'autres termes, si l'on s'arrête et que l'on examine la situation, on se rend compte que pour que l'Ukraine adhère à un accord de paix, il faut qu'elle ait une certaine garantie, et l'OTAN n'est pas une solution, car c'est en partie ce qui a causé le problème au départ. Nous n'avons pas permis à la Russie d'installer des armes nucléaires de moyenne portée à Cuba. La Russie n'en veut pas non plus à sa frontière. Et nous n'avons cessé d'aller plus loin. Et on peut discuter de ce point autant que l'on veut, mais le fait est que cela a certainement donné un bon prétexte à la Russie, ne serait-ce que pour le désir de se protéger, pour aller en Ukraine. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ils l'ont fait, mais je l'écris dans mes notes. Et je dis cela pour une bonne raison. Une sorte d'accord de sécurité doit être conclu pour l'Ukraine. Pourrait-il s'agir d'une combinaison de pays européens en dehors de l'OTAN? Après que j'ai écrit cela, M. Wenail m'a transmis un article que l'un des membres lui avait envoyé avec ce titre. C'était après mes propos. Le titre de BBC News, « Une armée européenne est nécessaire pour défier la Russie », déclare Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à la création d'une armée européenne pour se prémunir contre la Russie, tout en suggérant que les États-Unis pourraient ne plus venir en aide au continent. S'exprimant lors de la conférence de Munich sur la sécurité il y a quelques semaines, il a également déclaré que l'Ukraine n'accepterait jamais des accords conclus dans notre dos sans notre participation. Après que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont accepté d'entamer des pourparlers de paix, dans un discours prononcé récemment dans lequel il a attaqué les démocraties européennes, le vice-président américain J.D. Vance a averti que l'Europe devait faire un grand pas en avant en matière de défense. Zelensky a déclaré « Je crois vraiment que le moment est venu. Il faut créer les forces armées de l'Europe. » Cela fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que nous reconnaissons comme devant se produire. Et souvent, nous y pensons dans le contexte de l'Union européenne ou de l'OTAN. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est que l'OTAN ne sera pas en mesure de donner ces garanties. Alors, quel type de garantie l'Ukraine aura-t-elle? Et Zelensky dit une armée européenne. Une troisième vision ici. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose que nous savions depuis longtemps qui allait se produire. Nous n'avions pas l'image, et nous ne savons pas si c'est ainsi que les choses se passeront, mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait une puissante combinaison de 10 nations en Europe. Et il ne semble pas que l'OTAN ou l'Union européenne soient en mesure de le faire. Nous avons parlé d'une Union européenne à 2 niveaux, un noyau interne et un noyau externe. Peut-être que c'est simplement un noyau militaire qui va s'élever ici. La semaine dernière, nous avons appris que le pontife, âgé de 88 ans, ne se portait pas bien et qu'il était hospitalisé. Nous ne savons pas exactement comment il se porte aujourd'hui, mais combien de pontifes y aura-t-il encore? Chaque fois qu'il y a un nouveau pontife, on se dit que c'est peut-être le dernier. Il est évident que le pontife actuel n'est pas le dernier. Il y en aura un autre. Il y en aura peut-être encore 2, 3 ou 4. Je doute qu'il y en ait encore beaucoup. Mais c'est intéressant quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, le Moyen-Orient pourrait nous exploser à la figure. Nous avons les accords d'Abraham, ce qui est remarquable que l'administration Trump, au cours de son premier mandat, a été en mesure de mettre en place. Mais les otages, c'est intéressant. Si nous ne les récupérons pas assez rapidement, et que l'enfer se déchaîne comme cela a été menacé par M. Trump, qu'est-ce que cela va faire? Vous savez, s'il recommence à lancer des bombes partout, le monde pourrait se retourner contre nous et contre l'État d'Israël. L'Europe pourrait prendre les devants et dire « Il est temps que nous prenions les choses en main et que nous soyons l'adulte dans la pièce », comme il le verrait. Je ne sais pas exactement comment cela va se passer. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne le sait. Nous savons comment les choses vont se dérouler à long terme, mais nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Mais il y a un esprit puissant qui dirige le cours de ce monde. Dieu a une vision d'ensemble, et il va s'assurer que tout se passe comme il le souhaite. Mais bien souvent, il s'agit simplement de laisser Satan faire certaines choses, comme dans le cas de Job. Il lui permet simplement de faire certaines choses. Il se joue de Satan comme d'un pantin. Mais Satan se joue de nous. Je disais il y a des années, et je l'ai répété plus d'une fois, que l'un des plus grands défis de notre avenir est de ne pas laisser la haine monter dans nos cœurs. Vous savez, sur le continent africain, c'est le tribalisme, une tribu contre l'autre. Parfois, ils sortent des machettes et s'attaquent les uns aux autres. Comme il était merveilleux de voir des ministres des différentes tribus se réunir dans l'unité et l'harmonie. L'Église est aujourd'hui unifiée et en harmonie. Mais cela durera-t-il? Ou bien y aura-t-il, même parmi les membres de l'Église, des gens d'un pays qui haïront les gens d'un autre pays? Nous avons un défi à relever dans le futur. Satan essaie de diviser ce monde, de diviser l'Église et de nous diviser de toutes les manières possibles. C'est ce que nous voyons dans le monde politique. C'est ce que nous voyons entre les nations. La question est la suivante. L'un d'entre nous permettra-t-il à Satan de nous diviser? Il est facile de dire « Non, cela n'arrivera pas », mais les choses peuvent devenir très horribles. Beaucoup de choses peuvent se produire qui nous pousseraient à le faire. Nous devons garder la bonne perspective. Reconnaissons-nous notre véritable citoyenneté? Notez ce que dit Philippiens. Philippiens chapitre 3. Ne l'oubliez jamais. Et quand je dis ne l'oubliez jamais, n'y pensez pas seulement d'un point de vue académique, mais pensez-y du fond du cœur. Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. J'ai la citoyenneté de Washington, j'ai la citoyenneté d'Ottawa, mais cela ne veut pas dire que je suis dans l'une ou l'autre de ces villes en ce moment. Et nous ne sommes pas dans les cieux. Mais notre citoyenneté y est réservée. Elle est inscrite, pour ainsi dire, dans les cieux. C'est notre première et principale loyauté. Et tout le reste n'est que le jeu de Satan avec l'humanité, essayant de nous diviser, essayant de nous détruire. Non, Dieu n'a pas créé le diable. Mais le puissant chérubin Lucifer, qui a reçu un trône sur cette terre, s'est rebellé contre son Créateur. Et Dieu lui a permis de rester le Dieu de ce monde, le dirigeant de ce monde pour le moment, afin de voir si nous le suivrons ou si nous suivrons notre Créateur. Dieu veut savoir ou doit savoir où est notre loyauté, où est ma loyauté. Choisirons-nous l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La balle est dans le camp de chacun d'entre nous. Quel arbre allez-vous choisir?